soir, plusieurs mouvements citoyens ont appelé la population à manifester pacifiquement mercredi dernier sur toute l'étendue du pays. Objectif visé, exiger le départ du président Kabila au 31 décembre 2017. Cet appel a été soutenu par le rassemblement de l'opposition qui évoque lui aussi l'alternance en RDC. Mais en réaction à ces appels, la police a fait savoir qu'elle n'acceptera pas que l'ordre public soit troublé. Premier thème de la tribune de ce soir. Le second, ces morts causées par un accident de train dimanche dernier à Bouyoufoué dans la province de Lualaba. Un train de la SNCC, Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, et le bilan est de 39 morts. Pour ce qui est de la cause du drame, quant à elle, le gouverneur de province l'attribue à un problème de freinage. Richard Mouège écarte donc l'hypothèse d'un accident dû à la vétusté parce que les locomotives ont été acquises récemment. Pour évoquer ces deux thèmes, nous avons dans ce studio Joël Cadet d'Anga. Bonsoir.
Bonsoir chers confrères et bonsoir aux éditeurs de Radio Capé.
Éditeur du journal Impact News apparaissant à Kinshasa, Claude Molichot. Bonsoir.
Bonsoir Dona Madimba.
Journaliste à Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC. Il est aussi coordonnateur national des communicologues du troisième millénaire. Solange Louchiga, bonsoir.
Solange, bonsoir.
Voilà.
Salut aussi les auditeurs de Radio Capi.
Éditrice du journal Le Souverain Libre, journal paraissant à Bukavu, au Sud Kivu. À tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Alors, comme vous le savez, de nombreux sujets ont constitué l'actualité cette semaine en République démocratique du Congo. Faisons donc appel à Guy Maté pour nous en rappeler l'essentiel dans cette revue de presse.
Bonsoir. Les manifestations prévues ce mercredi par les mouvements citoyens occupent la une de la presse kinoise. Aussi, l'accident des trains dimanche dernier dans la province de Lualaba continue à défrayer la chronique. C'est ainsi que la tempête des tropiques affiche sur sa manchette « Ville morte à l'appel des mouvements citoyens », la RDC partiellement paralysée ce mercredi. Et c'est quotidien de préciser qu'à Kinshasa, comme dans d'autres villes du pays, les activités ont tourné au ralenti, occasionnant un important manque à gagner qui traduit la détermination de tout un peuple pour exiger l'alternance au sommet de l'État. Pour sa part, la référence plus note Lucha Monisco Rassop MP, chacun son bilan. Tandis que l'avenir titre sur sa une, ville morte du 15 novembre 2017, le Rassop et les mouvements citoyens échouent. Et ce journal s'interroge en ces termes, combien de temps faudrait-il à l'opposition radicalisée pour acquérir la maturité politique? Aussi, combien d'années lui faudrait-il pour comprendre que le peuple congolais n'adhère plus à son infantile stratégie de la ville morte? Au sujet du déraillement d'un train de la SNCC au Lualaba dimanche dernier, l'avenir annonce que Joseph Kabila décrète un deuil national ce jeudi 16 novembre suite au décès d'une trentaine de Congolais à Louboudi. Sur le chapitre des élections, la prospérité titre « Vérité des urnes en 2018 », RDC, priorité aux préparatifs des élections, s'exclame ce quotidien qui rappelle que le calendrier a été publié depuis le 5 novembre 2017. Tous les acteurs politiques, qu'ils soient de la majorité, de l'opposition ou du centre, l'ont lu et analysé. Là où nombreux, y compris la communauté internationale, l'approuvent, il y a d'autres du côté de l'opposition qui, naturellement, en toute démocratie d'ailleurs, le rejettent et proposent de nouvelles discussions techniques à l'effet de retarder encore les choses, conclut la prospérité. La référence plus, elle, revient sur la loi des finances adoptée par le Conseil des ministres ce mardi et affirme « Budget 2018, Tshibala mise sur 5 milliards de dollars américains ».
Merci Guy Maté. L'actualité, c'est aussi cette absence de la République démocratique du Congo à la prochaine Coupe du monde de football Russie 2018. Une absence alors que le pays était si proche. Beaucoup de buts marqués, 14 au total. Meilleure attaque de toute l'Afrique pour ces éliminatoires Russie 2018 et à un point seulement de la Tunisie qui, elle, est sortie première du groupe de la RDC. Et par conséquent, c'est la Tunisie qui va au Mondial. Claude Molichot, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC, mais aussi coordonnateur national des communicologues du troisième millénaire. Quelle est votre lecture de cette absence des Léopards au Mondial de l'année prochaine?
Et voilà, c'est vraiment regrettable, Dona, parce que des milliers de Congolais qui souhaiteraient assez que la RDC soit présente en Russie en 2018, à la phase finale de la Coupe du Monde 2018, bien sûr. Mais on n'y sera pas parce que on a essayé un peu de dirais-je d'empêcher les pays, les, ces grands pays à ces grands rendez-vous, parce que c'est notre propre faute. Il y a la responsabilité d'abord du sélectionneur. Moi, c'est ça, ça n'engage que moi. Le sélectionneur ne doit pas nous habituer à chaque fois, à chaque match, une équipe, une sélection. Ce serait pas bon. Nous devons avoir une équipe type. C'est-à-dire que nous savons que voilà l'ossature. Vous savez que la Tunisie, c'est la meilleure équipe de l'Afrique. Hein. C'est la toute première équipe de l'Afrique. On a raté cette qualification le jour où on a joué le match retour contre la Tunisie.
Mais Claude Moulichou, est-ce que votre analyse n'est pas un peu complaisante? Je vous donne quelques données. Lors du classement récent de la FIFA, la RDC est très bien placée, de loin devant la Tunisie. La RDC, de ces cinq dernières années, a accumulé de montées dans le classement de la FIFA. La RDC termine pour ses éliminatoires avec la meilleure attaque, deuxième avec plus de buts que deux autres qualifiés, le Maroc et le Sénégal. Et la RDC n'est pas seule à se retrouver dans cette situation. Vous dites que l'entraîneur change d'équipe à tout moment, mais on connaît plusieurs nations de football européennes. Hein. L'Italie, qui vient de se faire éliminer, a changé de jeu en permanence. Didier Deschamps, le sélectionneur de la France, on lui reproche en permanence de ne pas avoir une équipe type, mais la France a joué la finale de l'Euro et est qualifié pour la Coupe du Monde. Est-ce que vos analyses suffisent pour mettre en cause
Idé Le dernier classement de la FIFA, nous sommes pas devant la Tunisie, nous sommes derrière la Tunisie. Mais aujourd'hui, vous constatez avec moi, on a livré match aller-retour plus de 10 rencontres. Hein, 10 rencontres, je crois, 8 ou 10 comme ça. Et s'il faut observer la sélection de Florent Ibenge, vous constaterez que c'est presque à chaque match une nouvelle équipe.
Mais que diriez-vous de l'Italie?
Moi, j'ai dit que
deuxième pays avec un meilleur palmarès au monde. Hein. Deuxième, c'est quoi avec l'Allemagne?
Le problème, c'est quoi l'Italie? Et qui est éliminé. Vous faites allusion à l'Italie, la France et d'autres pays européens. C'est du professionnalisme vraiment à un niveau très très supérieur. Et ces joueurs-là, ils sont compétitifs à chaque instant.
Ibenge a perdu un seul match, Claude.
Ici chez nous,
un seul match.
Bien sûr, mais le match contre la Tunisie, le match retour contre la Tunisie, ici chez nous, au Stade des Martyrs, pouvait être gagné par les Léopards.
Pourquoi ça ne
serait pas? C'est ça le problème. Mais nous avons constaté que le sélectionneur national nous a habitués pour chaque match, une équipe. C'est ça le problème.
Mais que peut-il faire? En fait, il y avait quand même des joueurs qui étaient dans tous les matchs. Dissamen Peko était dans tous les matchs.
Un joueur comme Tisserand. C'est un défenseur de taille qu'on ne peut pas ne pas sélectionner à chaque match. Tisserand, c'est un défenseur de taille. Aujourd'hui, le football est devenu quelque chose de technique et de physique. Si on n'est pas au point physiquement, on n'est pas au point techniquement, on ne peut pas s'engager à une grande compétition comme celle des
éliminatoires. Tisserand était à tous les matchs de la Guinée. Et la défense a encaissé deux buts.
Oui, la défense a encaissé.
Et
je vous dis que les problèmes que le sélectionnaire, bon, je ne dis pas que tout lui revient, la responsabilité, mais cette fois-ci, le gouvernement a donné des moyens pour que nous puissions être présents au Mondial 2018. Mais le sélectionnaire, vraiment, ça n'engage que moi, en tant qu'observateur, le sélectionnaire nous a habitués à chaque... Et pour chaque match, une équipe. C'est pas bon pour Florent Ibenge. Je pense qu'il va corriger pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football de 2019.
Solange Louchik, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Alors Solange, nous commentions déjà la première actualité. C'est cette actualité de l'absence de la RDC à la prochaine Coupe du Monde de football Russie 2018. Une absence alors que le pays était si proche. Beaucoup de buts marqués pour la RDC, 14 au total. Meilleure attaque de l'Afrique pour ces éliminatoires. À un point seulement de la Tunisie qui, elle, se qualifie parce qu'elle est première de ce groupe, justement, avec la RDC. Est-ce que le football vous dit quelque chose? Si oui, en fait, quelle est votre analyse de cette absence, de ce rendez-vous manqué de la RDC?
Bon, je vais me permettre d'analyser avec un œil un peu généraliste parce que je ne connais rien en matière sportive. Je ne maîtrise rien de tout ce qui concerne le sport, le football, et comment notre pays s'engage avec l'équipe nationale. Mais tel que vous venez de me poser la question, je comprends bien que nous avons encore brillé en termes de... Comment dire? Nous avons encore brillé en termes d'incompétents à ce qui concerne les dirigeants du pays. Parce que ce n'est pas normal que que notre pays soit quand même absent d'un grand rendez-vous sportif comme celui-là. Et j'imagine que ce n'est pas seulement un problème lié au sport, mais c'est ce qui nous ressemble aujourd'hui, hein, à la face du monde, en fait, il n'y a rien qui va au Congo. Alors je vois mal que, malgré les efforts de Flora et de son équipe, malgré les efforts de tous les athlètes, je ne vois pas vraiment le pays exceller et aller de l'avant jusqu'à un point où tout le monde en sera fier, parce que j'ai comme l'impression qu'à un certain moment, les autorités congolaises se sentent bien lorsque nous les avons.
Mais Solange, on n'est pas les seuls, hein, à ne pas aller à la Coupe du Monde, vous ne le savez peut-être pas. Il y a le Ghana par exemple, il y a le Cameroun qui est l'actuel champion d'Afrique, des nations, mais il y a aussi des grands pays comme l'Italie qui ne sont pas qualifiés. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop sévère?
Bon, je le suis parce que, qu'est-ce que vous voulez? Lorsque vous parlez sport, le sport, moi je le compte parmi les activités de divertissement. Mais nous autres ici, est-ce que nous avons droit au divertissement?
D'accord.
Parce que l'Italie peut ne pas être là et les autres pays peuvent avoir d'autres priorités ou bien tout simplement ils vont négliger parce que ça ne compte pas pour eux. Mais pour nous, est-ce que nous avons droit à un divertissement?
Merci de cette analyse, Solange. Nous reviendrons à vous tout à l'heure. Joël Kadé d'Anga.
Oui, très cher confrère, vous avez bien dit dans un rapport avec mon confrère que son analyse était complaisante. J'ai aimé ce que vous avez dit parce que c'est lui qui nous a fait rêver le mondial, c'est Ibenge. C'est quand Ibenge est arrivé qu'il nous a fait rêver mondial. J'ai vu, on a fait passer une interview qu'il avait fait avec les journalistes de Télé7 dernièrement et c'est Ibenge qui nous a fait rêver. C'est Ibenge qui a relevé le niveau du sport congolais. C'est Ibenge qui nous a fait gagner à deux reprises le CHAN. Nous l'avons gagné.
Une fois, oui. C'est pour la deuxième fois.
La deuxième fois que je voudrais citer, nous étions troisième à la Coupe des Nations. Je pense qu'il faudrait être très modeste lorsqu'il faut parler des choses que l'on ne maîtrise pas. Ibenge n'est pas payé comme les autres ici, le Claude Leroy, qui recevait 50 000 $. Ibenge touche à peine 16 000 ou 18 000 $ qui ne lui sont pas payés et il a des arriérés de plus de 6 mois. Le match qui avait été joué dont mon ami parle, il y a Mbemba qui était l'acteur principal du match, qui a été sorti, et ça déstabilise un peu le moral des joueurs. Il faudrait comprendre cela. Et vous avez donné les éléments qui démontrent que nous avons été la meilleure attaque, nous avons été le nombre de buts, nous sommes premiers, mais je ne vois pas sur base de quoi, parce qu'il y a eu, et puis, vous savez, vous avez dit à Solange qu'elle est sévère, c'est vrai, mais lorsque vous refusez, le football, c'est aussi s'accompagne avec une dimension de la chance. Vous êtes dans un pays où les autorités sont devenues insensibles, ils ont des cœurs en pierre, ils ont des cœurs monstres. Comment vous pouvez aller? Sur le plan tactique, sur le plan technique, vous trouvez que vous méritez. Mais lorsque vous refusez d'aller aux élections, lorsque vous refusez d'accorder à votre population la nourriture, le pain, vous refusez de lui accorder les soins de santé, vous refusez de lui accorder les routes, comment voulez-vous vous réjouir? Je crois que c'est une main de Dieu qui agit. Mais l'actualité, aussi cette semaine, si vous me permettez, c'est cette réunion des députés nationaux, des commissions de l'ECOFIN, environnement et politico-judiciaire et administrative à l'hôtel Béatrice pour discuter de la révision du code minier et prise en charge par le gouvernement. Il y a plusieurs lois qui nécessitent la célérité, notamment la loi électorale qui est attendue avant la fin de ce mois, la loi sur le budget et la loi d'accès à l'information, mais les députés n'accordent pas la célérité ou la diligence à ces lois essentielles, mais on accorde la diligence à la loi portant révision du code minier, alors que les effets, comme on est en train de mentir, ça sera sur le budget, les effets c'est dans 10 ans. Comment est-ce que ça va impacter le budget national? C'est qui frise une sorte de corruption sur ces députés qui ont été internés. Pourtant, ils ont des locaux très luxueux, très somptueux au Palais du Peuple, mais ils ont été internés à l'hôtel Béatrice, ce qui frise une corruption de soit par le gouvernement, soit par les miniers, parce que des gens parlent que 200 000 $ auraient été versés pour leur internement là-bas. C'est là où nous nous inquiétions beaucoup sur ces sujets. Nous pourrions peut-être y revenir dans nos prochaines prestations.
nous y reviendrons, Joël Cadet, tout en signalant que, s'agissant par exemple de la loi électorale et du budget, les choses se sont mises à bouger depuis quelques heures, vous avez dit, nous y reviendrons. Venons-en à présent à nos deux thèmes du jour. Le premier, la République démocratique du Congo a connu mercredi une situation de vie normale et pas normale, par-ci par-là, dans l'ensemble du pays, au fait les mouvements citoyens soutenus par une partie de l'opposition à RDC avaient appelé à des manifestations comme à des villes mortes. Et déjà, mercredi soir, les uns et les autres ont fait leur bilan de la situation. La majorité présidentielle a parlé d'échec. Et écoutons à ce sujet le porte-parole de cette famille politique, Alain Atundu Liongo. Il est au micro de Jeff Ngoy.
La majorité présidentielle note avec satisfaction la grande maturité du peuple congolais face aux opérations téméraires et intempestives de villes mortes. La population congolaise dans son ensemble a superbement ignoré le mot d'ordre de ville morte lancé par certains activistes en mal d'inspiration dans le seul but de contrarier les initiatives du chef de l'État dans la normalisation de la situation politique de notre pays. Fort des amères expériences du passé, les Quinois ont compris la mauvaise foi et la supercherie de ces démocrates de façade qui veulent ainsi créer délibérément une confusion dans l'esprit des Congolais pour aboutir à un autre dialogue politique dans l'espoir d'accéder au pouvoir par des combinaisons mafieuses en dehors des élections, seule voie démocratique en la matière.
De son côté, la Lucha, lutte pour le changement, qui fait partie des organisateurs de ces manifestations, parle de réussite. Espoir Ngalukie, activiste de la Lucha, parle de 90 à 100% de réussite pour la journée ville morte dans certaines villes et de 60% pour les manifestations populaires. Il déplore cependant quelques violences occasionnées par la police nationale. Il est joint depuis Goma par Jean-Désiré Kanyama.
Nous nous sommes rendus compte que c'était une réussite totale. Nous remercions la population congolaise qui est en train de grandir, c'est-à-dire nous méritons mieux que ce qui nous dirige actuellement.
Est-ce que vous confirmez que votre appel a été suivi?
La ville morte a complètement réussi et les manifestations populaires, là, nous pouvons dire que c'est à 60%. Pas à 100%, mais notre appel a été suivi à plus de 80%. Parce que dans presque toutes les grandes villes de la RDC, ça a été suivi, sauf que nous déplorons quelques violences occasionnées par la brutalité et le non-professionnalisme de la police nationale congolaise. Peut-être elle est devenue politique ou elle est devenue partisane. Pourtant, elle est censée travailler avec la population et pour la population. Et
mais quand vous parlez 100%, c'est dans quelle ville?
Les manifestations populaires, là je dis à 60%, mais la journée ville morte, là nous disons 90% dans certaines grandes villes.
Éditrice du journal Le Souverain Libre, journal paraissant à Bukavu, au sud Kivu, Solange Lushiku, pour vous, réussite ou pas réussite ces actions de mercredi?
Bon, réussite pour ceux qui pensent que c'était une réussite par rapport à leur stratégie. Pas de réussite pour ceux qui ont observé, par exemple dans ma ville de Bukavu, il y a rien eu. C'est toute l'étendue de la province du sud Kivu, sauf dans le territoire d'Idi où les mouvements citoyens, il y en a marre. Non, ça n'est trop à organiser quelque chose. Il y a eu une douzaine de militants du mouvement qui ont été un peu tracassés par la police.
Il y a des commentaires, hein, d'autres personnes qui pensent que les appels à la ville morte, les manifestations à RDC, ce n'est plus tellement la peine. Ça n'a jusqu'ici, selon eux, n'ont presque jamais donné de bons résultats, qu'il faut changer de stratégie. Il y en a d'autres qui continuent d'appuyer ce genre d'activité et estiment que il faut continuer dans ce type d'action. Vous, qu'est-ce que vous en dites?
Je pense que les gens sont en train de réfléchir. Si je peux donner ma petite réflexion à moi, c'est que on est à un stade où les gens commencent à se poser des questions. On nous appelle à la ville morte, on nous appelle à la manifestation, nous y allons. Mais parmi nous, il n'y a aucun enfant de ceux qui nous appellent, il n'y a aucun proche parce qu'ils sont tous aux études. Quelque part en Europe, aux États-Unis. Et lorsque ça tire sur nous, ce sont nos enfants qui meurent, et après, il n'y a personne qui nous assiste, surtout qu'on est maintenant habitué à l'insensibilité des autorités congolaises, on est habitué à l'absence du sentiment de compassion. À un certain moment, on se demande, même si le sang coule, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se sentir interpellé par cela? Si on continue à dire, il y en a marre, ça n'est trop, tout sauf Kabila doit partir, est-ce qu'on va pas, on va pas gaspiller les énergies qui nous faut peut-être mettre ensemble pour essayer de jouer la carte de l'intelligence?
Solange?
Oui.
Solange, merci de partager avec nous à haute voix les réflexions que vous faites. Mais ce serait alors quoi la solution selon vous? Le problème RDC, ce serait quoi la solution?
Moi, je pense que le problème en RDC, c'est celui-ci. Pour moi, je pense que nous devons en finir avec des idées ou des actions qui font penser à des hommes providentiels. Ici, je parle de certains acteurs de l'opposition et même certains acteurs du pouvoir. Parce qu'on a tendance à récuser l'intelligence collective. On croit que c'est tel homme providentiel qui est capable de nous apporter ceci, de nous apporter un changement.
Mmh. Ce serait quoi? Ce serait l'élection? Ce serait organiser rapidement les élections ou continuer des manifestations jusqu'à obtenir changement?
Même avant les élections, il s'agit d'organiser, en premier lieu, ce que moi je pense, d'organiser la jeunesse surtout, à organiser des débats pour dégager des paroles de sagesse. Messager qu'un homme providentiel ne peut pas offrir à la communauté. Parce que cette indépendance, personne ne peut nous la ravir.
Merci Solange, nous reviendrons à vous pour le deuxième sujet. Éditeur du journal Impact News, paraissant à Kinshasa, cher Joël Cadet, échec ou réussite selon vous?
Non, on ne peut pas parler ni de l'échec ni de la réussite. Je ne voudrais pas me placer dans un camp comme dans un autre. Je préfère faire une étude, une analyse objective en restant au milieu. Les manifestations ville morte, les manifestations font partie des actions non violentes de faire comprendre à l'adversaire ou à l'interlocuteur un message bien déterminé. Et ce message, vous le lui transmettez au travers d'une ville morte qui consiste à la paralysie des activités commerciales, administratives ou au ralentissement de ces activités dans une ville. Mmh. Pouvons-nous nous poser la question?
Y a-t-il eu ralentissement
des activités hier? La réponse est oui. À Lubumbashi, la réponse est oui.
Quelques
à Ouidji, la réponse est oui. À Goma, la réponse est oui.
Il y a eu
paralysie. Les universités n'ont pas ouvert. L'école, mes enfants étaient à la maison. J'ai dû quitter de Matongé jusqu'au centre-ville. J'ai dû faire 5 minutes dans ma voiture sans beaucoup de peine. Et donc, il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait pas de circulation. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est la perception, le décryptage de ce message par l'interlocuteur.
Le pouvoir dit que c'est un échec.
Non, un échec, ça veut dire quoi? Le décryptage tel que fait par le pouvoir, par l'interlocuteur à qui on a donné le message que nous voulons les élections, nous voulons que vous partiez, nous voulons que on organise les élections suivant les calendriers de la Saint-Sylvestre. Le message tel que donné par les mouvements citoyens n'est pas entendu de l'autre côté, parce que nous sommes dans un régime hybride où ce n'est ni démocratie ni dictature, mais l'autre ne veut pas entendre cette voix-là. La réponse qu'il donne ou qu'il a toujours donnée, c'est quoi? C'est vous renvoyer les chars de combat, c'est vous renvoyer l'armée pour tuer. Nous avons comptabilisé plus de 100 personnes le 15 janvier 2015. Nous avons comptabilisé plus de 40 personnes mortes le 19 septembre 2016.
Des chiffres qui ne sont pas validés par le pouvoir en place.
S'il vous plaît, le pouvoir a validé ces chiffres-là. Les chiffres que je donne, c'est selon le pouvoir. Je ne compte pas les chiffres donnés par les autres. Le 16 novembre 2016, on a enregistré des morts. Le 19 novembre, 19 décembre, il y a eu des morts.
Joël Cadet, souffrez que je vous relance. justement, il y a eu toute cette énumération des faits, mais si le pouvoir, malgré tout ce que vous donnez comme argument, continue de dire que c'est un échec, est-ce que vous pensez que c'est encore utile de persévérer dans ce genre d'action? Non. Apparemment, pas vu,
non,
pas
comment
entendu,
persévérer,
pas senti par le
comment
pouvoir.
Comment persévérer? Parce que la stratégie du pouvoir ou la réponse du pouvoir, je peux les caricaturer de la manière suivante. Les chiens aboient par des actions non pacifiques, par des actions non violentes, la caravane passe. À un moment donné, la caravane s'arrête, écrase le chien. C'est-à-dire le 15, prenons le 15 janvier 2015, on prend le Muyambo, le Christopher Ngoï, on tue, on envoie l'armée. C'est l'armée qui était sur terrain pour tirer à balles réelles sur la population. Donc la caravane s'arrête, écrase, envoie les autres en prison et elle poursuit son bonhomme de chemin. Et le 19 septembre, la caravane s'arrête, écrase et vous pouvez continuer. Mais maintenant le problème c'est quoi? La conséquence c'est quoi? C'est que ça va susciter dans les stratagèmes des opposants de manigancer ou de réfléchir ou démonter certaines autres stratégies qui soient capables à être entendues par celui qui est en face, qui croit qu'il a l'arme. Et comme le pouvoir a été acquis par les armes, on peut répondre que par les armes. Vous avez vu même les concertations nationales. Ils n'ont été convoqués que lorsque il y a eu le M23. Donc, si on doit incruster dans la pédagogie générale que pour être entendu il faudrait prendre les armes, pour être entendu il faudrait il n'y a que la voix du Kalachnikov, c'est là que c'est dangereux, parce que dans une situation d'illégitimité comme nous y trouvons aujourd'hui, le changement pourra venir de n'importe où et un autre Laurent Désiré Kabila pourra sortir de n'importe où et basculer tout ce que nous avons consenti comme sacrifice en termes de construction, en termes d'installation de la démocratie, en termes de la culture démocratique, on va tout briser et quelqu'un il pourrait aussi venir comme Mouzé avait fait, il arrête les activités politiques de tous les partis politiques et il va nous reculer de 10 ans après. C'est ainsi que j'en appelle vraiment à la sagesse de ceux qui sont au pouvoir d'entendre le message et de donner la réponse au lieu de se moquer. Aujourd'hui, les Atund du Zimbabwe, ils sont en prison, les Yav Mouland du Zimbabwe, ils sont en prison. On est en train de les appeler des criminels qui étaient tout autour du chef. Voilà, je crois au lieu qu'ils soient appelés demain comme au Zimbabwe comme des criminels, il est temps de comprendre les messages que la Providence est en train de transmettre à toutes les nations en ce moment.
Évitons de personnaliser les allusions. Juste très rapidement, en un mot, pour vous, ces actions doivent continuer?
Bon, les actions devront continuer. C'est là où j'appelle à la sincérité du G7, où il y a ceux qui avaient monté les mêmes stratégies en 2015, et plus tôt que ça, comme les Pierre Lumbi. C'est là où j'en appelle à leur sagesse, parce que ce sont eux qui avaient monté tous ces stratagèmes. En rejoignant l'opposition, il faudrait qu'ils réfléchissent en étant dans l'opposition sur d'autres stratégies qui peuvent être entendues du pouvoir. Parce que poursuivre sur la même lancée du combat de l'UDPS de la non-violence entamé depuis 1982, ça poserait sérieusement des problèmes. Il faudrait qu'ils imaginent d'autres stratégies qui peuvent être entendues par leurs interlocuteurs.
Merci Joël Cadet, journaliste à la Radio-Télévision Nationale, pas vous, mais plutôt Claude Molichaud. Quelle est votre analyse de ces manifestations?
Donna, espérons que j'aurai aussi le même état d'antenne que Joël, mon ami.
Allez-y déjà, Solange. Vous en consommez.
Oui,
déjà.
Et Joël dit qu'il faut donner la réponse à tout ce qui s'est fait comme manifestation. Mais s'il m'était donné de poser la question à Joël, je dirais, quelle est cette réponse à donner? C'est ça la question. Parce que nous devons nous poser la question de savoir pourquoi toutes ces villes mortes, pourquoi toutes ces manifestations, pourquoi toutes ces marches ou les mouvements citoyens orchestrés par des acteurs politiques de l'opposition et ainsi de suite. Pourquoi tout ça aujourd'hui? Parce qu'il y a quelques jours ici, on nous disait toujours que non, nous devons avoir un calendrier électoral. Avant même le passage de Madame Nikki Haley ici, les gens réclamaient le calendrier. Même lors du passage, il a reçu les gens de RASOP, Limité. Ils ont réclamé le calendrier électoral. Et le calendrier est venu. Même pas plus de 2 semaines après, c'est quelques jours après, le calendrier est venu. Mais avant même de l'analyser, avant même de proposer l'alternative, ils ont rejeté en bloc ce calendrier. Les gens justifient ces manifestations pour rejeter les calendriers, d'autres justifient ces manifestations pour obtenir une alternance ou la transition sans Kabila, d'autres encore parlent des actions pour le respect de la Constitution, d'autres vont même plus loin pour réclamer le respect de l'accord du 31 décembre.
Mais selon vous, est-ce que ces actions n'ont quand même pas soit ralentit les activités, soit paralysé, soit nuise régulièrement quand même à l'économie du pays.
Ce n'est pas ça le problème. On a connu des manifestations depuis la transition mobutienne, depuis le 24 avril 1990. Jusqu'aujourd'hui, on a des manifestations de l'opposition. Moi, j'ai dit...
Vous ne pensez pas que la population est en train d'envoyer des bons appels?
Il y a des gens qui nous suivent, ils voudraient savoir où est-ce que nous pouvons aller. Ce qui est très important aujourd'hui, ce sont les élections. Parce que et l'opposition, et la majorité, et la société civile, et tout le monde... Et même les mouvements citoyens réclamaient les élections. Ils réclament les élections. C'est le point qui nous unit. L'intersection, c'est quoi? Ce sont les élections-là. Mais allons aux élections. Moi, j'ai dit, on a publié les calendriers. Qu'ils réclamaient encore et à cri. Le calendrier est là. Mais qu'est-ce qui bloque encore? Parce qu'ils disent qu'ils sont majorité. Ils ont le peuple derrière eux.
Oui, mais pourquoi les forces de l'ordre empêchent que les gens réclament les élections publiquement, pacifiquement?
Non, personne n'a empêché quelqu'un de réclamer les élections. Le calendrier est
on
là.
A entendu, on mais a moi, entendu je pose la question. Quel est le chef de police de Kinshasa et quelques chefs de police
quels sont les mobiles, quels sont les mobiles
prévenir,
de ces marches c'est pour réclamer le calendrier parce qu'il y a trop de justifications. Il y a des gens qui disent que non, nous ne voulons plus de calendrier, il faut que les Kabila partent. Il y a des gens qui disent comme ça.
Oui, c'est une demande aussi, non?
Mais est-ce que ça se justifie, honnêtement?
Posez-leur la question.
Nous sommes dans un côté démocratique où les gens doivent se préparer. L'alternance s'obtient par les urnes, pas non par les marches, les casses ou des pillages. Non. Moi, je pense que si nous sommes démocrates et si nous sommes sûrs de nos bases, que chacun là où il est, parce que je ne suis pas politicien, je suis journaliste, je fais allusion aux acteurs politiques, chacun là où il est dans sa base, qui entretient sa base pour qu'on aille aux élections. Et que s'il a le peuple derrière lui, il peut gagner ses élections. Et c'est ça l'alternance. Et non pas aller casser, aller piller les magasins des Chinois ou des particuliers pour aller dire que non, nous devons manifester pour réclamer le respect de la Constitution. La Constitution, est-ce que la Constitution a été violée?
Claude Molichaud.
Est-ce que pour obtenir l'alternance, il faut casser les magasins, il faut manifester. Les élections viennent.
Merci Claude Molichaud.
Qu'on aille aux élections. Je n'ai pas terminé.
Merci Claude Molichaud. Je vais vous accorder la parole en premier tout à l'heure. Nous rentrons maintenant dans notre deuxième sujet du jour. 39 personnes sont mortes dimanche dernier dans un accident ferroviaire survenu à Boyofoué, dans une gare située à près de 30 km de Louboudi, dans la province de Lualaba. Un train marchandise de la SNCC qui tractait des wagons et les citernes d'essence a vu ces citernes prendre feu et calciner plusieurs passagers. Retour sur cet événement avec Jean Gandou.
Cet accident est survenu dimanche matin. Le train marchandise de la SNCC parti de Lubumbashi se dirigeait vers Luena. À son bord, plusieurs passagers. Ce dernier y aurait pris place en cours des routes. Car d'après certains habitants de Louboudi, il y a longtemps que le train est passé de ce côté-là. Ces personnes en ont donc profité pour effectuer ce voyage. Se retrouvant sur une pente, la locomotive s'est emballée avant de finir sa course dans un ravin. Ce train avait une rame à laquelle étaient attachés 13 wagons et les citernes d'essence. Dans ce choc, les citernes d'essence ont pris feu, surprenant ainsi certains passagers en plein sommeil. Des 13 wagons, 11 ont pris feu. Sur place, on dénombre 33 corps calcinés et plusieurs blessés, la plupart sont débrûlés. D'autres ont été ramenés par leurs membres de famille à Luena. D'après l'administrateur du territoire de Louboudi qui revient du lieu du drame, ce bilan est encore provisoire, car il y a d'autres personnes qui sont encore sous les décombres. Nous apprenons que le gouvernement provincial du Lualaba vient de dépêcher une forte équipe à Boyofoué pour s'enquérir de la situation. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Merci Jean Gandou. Claude Molichaud, journaliste à la radio-télévision nationale RTNC. Je rappelle à nos auditeurs, juste pour rétablir l'équilibre, que au premier commentaire, vous avez été celui qui a pris la parole pendant longtemps. Donc à ce moment-ci, voilà, nous sommes assez équilibrés dans le débat. Claude Molichaud, quelle est votre analyse de cet accident malheureux de Lualaba?
Oui, Donna, nous exprimons notre solidarité en droit de famille des victimes de ces trains vers Louboudi et dans la province de Lualaba. Et on a même décrété un deuil national jeudi dernier parce que il faut être vraiment, il faut afficher une solidarité vis-à-vis de nos, ce sont des âmes, ce sont des Congolais qui sont morts. Il y a encore un autre accident vers Isiro là-bas, sous la voie publique, et des gens sont morts là-bas. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un problème de la voie ferrée, même du côté de l'axe Kindu, Kalemie ou Kindu-Lubumbashi, la voie ferrée n'est plus en bon état. Aujourd'hui, les trains risquent de faire même un mois pour quitter Lubumbashi jusqu'à Kindu, ou soit Kalemie jusqu'à Kindu. La SNCC a des problèmes sérieux sur le plan financement. On a tenté avec la Banque mondiale, mais ça n'a pas tellement donné des résultats. Mais il faut, même l'ONATRA, parce que nous avons un train qui quitte Kinshasa vers Matadi, la voie ferrée aussi n'est pas bonne à ce niveau-là. Il faudra la renouveler, si pas la moderniser. Mais ici, il appartient à ces deux sociétés, surtout au ministre des Transports, peut-être qu'il est en train de nous suivre, d'essayer un peu de chercher comment réhabiliter toutes ces voies ferrées pour qu'on puisse sécuriser les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, c'est un danger. Quand un train quitte Lubumbashi vers le Kasai ou quitte Lubumbashi vers le Maniema, on ne sait pas si ce train-là va arriver à la gare finale. C'est un problème. C'est parce que il y a des problèmes sur le plan réseau. Il faudra vraiment... Il y a des gens qui posent la question de savoir si on peut arrêter. Parce qu'aujourd'hui, le ciment, qui est très très attendu à Kindo, vous savez que Kindo aujourd'hui est devenu une très belle ville, parce qu'on attend, il y a du ciment qui arrive pour essayer un peu de reconstruire les infrastructures routières et immobilières. Et alors, quand le ciment n'arrive plus à Kindo, le carburant, tout est bloqué. Et aujourd'hui, à Kindo, un litre de carburant devient à 300 ou 350 francs congolais. Et 3000, pardon, 3000 ou 3500 francs congolais. C'est un problème. Alors, sans les trains, il n'y a pas d'échange de marchandises.
Mais en principe, c'est un problème. Le pouvoir qui gère le pays depuis un moment aurait dû parer à tout ça, non?
Oui, le gouvernement doit essayer un peu de trouver des solutions. C'est pas seulement vers l'est ou soit dans les Kasaï, mais même du côté de l'ouest, Kinshasa Matadi, la voie ferrée de l'ONATRA. Moi, j'ai dit, il faut faire cet axe-là sur la voie ferrée. Vous constaterez que les trains sont en train de rouler vraiment avec beaucoup de prudence, les machinistes. C'est un problème fondamental. Nous devons prendre ces problèmes vraiment sur le plan global et pour qu'on trouve une solution, une fois pour toutes, afin de sécuriser les Congolais. On ne doit pas perdre les Congolais comme ça parce qu'on veut coûte avoir des moyens.
Joël Kadé, Danga, éditeur du journal Impact News, paraissant à Kinshasa. Joël, le gouverneur a dit ce n'est pas la faute de la vétusté du train, mais plutôt un accident dû à un freinage. Vous partagez
son avis? Non, cher confrère, écoutez, ce train et cet accident ferroviaire, parmi tant d'autres, il se comptabilise en de milliers sur l'étendue de la République démocratique du Congo, nous ramène à nous poser la question sur le bilan de Joseph Kabila de 16 ans à la tête de ce pays.
Ah oui, juste pour un accident de train?
Justement ça, parce que...
Il y a des accidents un peu partout dans le monde, les avions, les trains, les bateaux.
Vous vous rappellerez, cher confrère, qu'il nous a été présenté un programme quinquennal de 5 chantiers de la République. Et ce programme-là, c'était les infrastructures, c'était l'eau et l'électricité, c'était l'emploi, c'était les infrastructures, l'accès à la santé et l'éducation. Mais lorsque vous regardez, tout ce bilan a été occulté par les concertations nationales, les discussions sur les dialogues, aujourd'hui, pour ou contre les élections. J'aimerais qu'on revienne à là, parce que vous vous rappellerez qu'il y a un de nos confrères qui avait animé la visibilité des 5 chantiers, qui nous avait montré les TGV, qui nous avait montré les avions, qui nous avait montré toutes ces histoires-là.
Mais Joël Kadé, les accidents arrivent partout.
Les accidents arrivent,
à l'heure où vous et nous parlons, Dona il y a Madimba. Un avion qu'on ne retrouve plus depuis plusieurs années.
Les accidents arrivent partout. Mais vous vous rappellerez, l'ancien Premier ministre qui a fait ses études en partant de Kindu, de son Kindu natal jusqu'à Lubumbashi par train, il est allé nous acheter les vieilles locomotives en Afrique du Sud. Les a tous, tout simplement, peintes.
Comment savez-vous que c'est des vieilles locomotives?
Non, ça a été dit. Les rails doivent être relancés. Vous savez, dans la construction de ce qui s'appelle aujourd'hui République démocratique du Congo, Stanley avait dit, sans les chemins de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Donc ça veut dire, aujourd'hui, sans le chemin de fer, vous savez que la République démocratique du Congo, à cause de sa mauvaise gestion, est en train de bloquer le développement de toute l'Afrique. Vous pouvez aujourd'hui rouler sur route du Caire jusqu'à Bangui. Et lorsque vous arrivez au niveau de la République démocratique du Congo, vous êtes bloqué. Et vous pouvez rouler du Cap en Afrique du Sud jusqu'à Lubumbashi. Et quand vous arrivez en République démocratique du Congo, vous êtes bloqué. Et la République démocratique du Congo est bloquée à cause de la monstruosité de
sa taille, de sa superficie.
Non, la monstruosité de ces dirigeants qui n'ont plus de cœur d'homme. Et vous avez entendu qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, qu'il s'agisse de tous ces accidents-là, vous sentez, vous avez un père de famille qui ne qui ne dit même pas un message de condoléances aux familles éplorées. Vous avez une insensibilité dans le chef du gouvernement, pas même un message, mais ailleurs. N'allons pas en Europe, restons en Afrique. Lorsqu'il y a eu la catastrophe des Tara,
il y a eu
quelque chose, chers confrères, en Guinée. Alpha Condé est descendu sur les lieux. Tout simplement que le chef de l'État embrasse la population dans ses bras, ça crée une sorte de chaleur dans ces familles éplorées. Nous-mêmes qui avons perdu des membres de famille ici, vous avez des ministres amis, vous avez des premiers ministres, pas même un message de condé. Donc vous avez des dirigeants qui sont insensibles même au malheur de tout ce qui arrive. Vous rendez compte que nous avons atteint le niveau où nos autorités ne savent même plus exprimer la compassion, même comme les animaux le font envers les autres animaux qui sont en souffrance.
Merci Joël Kadé-Danga pour cette dernière intervention de votre part. Le débat est tellement chaud. Nous terminons avec Solange Luchiga, éditrice du journal Le Souverain Libre, journal paraissant à Bukavu dans le sud Kivu. Et c'est vous qui avez la dernière parole, Solange. Selon vous, c'est un simple accident ou voyez-vous plutôt la faute du côté de l'âge du train?
Je voudrais encore vous rappeler que Solange Luchiga.
Oui, excusez-moi, oui, Luchiga.
Je me rappelle dans un film d'enfant, on dit que si un cheval tombe, ce n'est jamais la faute du cheval, mais celle du cavalier. Et le cavalier ici, ce sont les autorités congolaises. Je voudrais vraiment abonder dans le sens de Joël Kadé. C'est vrai. Même si les accidents, il y en a partout, d'ailleurs, c'est pour cela que ça s'appelle accident. Il n'y a personne qui prévoit qu'il y ait un accident. Mais il y a quand même moyen de prévenir qui n'est pas des situations qui exposent à des accidents. Par rapport à cette question-là de l'accident, le train qui a déraillé, pourquoi vous ne voulez pas accepter qu'il y a vétusté de ce matériel, qu'il y a même porosité au niveau des rails, qu'il y a beaucoup de problèmes liés même à ces engins-là qui transportent les gens. Et encore, selon ce que j'ai lu sur Internet et dans les débats ici et là, ce train-là, ce train-là, c'était pour les marchandises et non pour les humains des Congolais. Ce ne sont pas les humains congolais, les citoyens congolais qui doivent normalement voyager avec ces wagons. Alors, au moment où Joël Sadé vous présente sa réflexion, vous ne voulez pas accepter que cela dénote encore une fois de l'irresponsabilité notoire de l'État congolais, des dirigeants congolais. Et lorsque il rebondit sur la question des morts où il n'y a jamais eu de messages de condoléances, il n'y a jamais eu une sorte de sentiment de compassion. Vous ne voulez pas qu'il continue, pourquoi? Alors que au Nord Kivu, il y a fait. On a connu 2001, 2002, 2003, 2004. Et on n'a jamais entendu ce message-là de compassion provenant du sommet de l'État congolais.
Solange Luchiga, éditrice du journal Le Souverain Libre, journal paraissant à Bukavu, au sud Kivu. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, à tous les trois. La tribune de la presse de Radio Okapi ce soir, c'est fini et c'était un réel plaisir d'être avec vous tous les trois. À la technique, c'est Alain Goyi, Guy Maté à la réalisation. Dona Madimba vous a présenté cette tribune de presse. Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Bonsoir chez vous.